Ça va bien, l'espoir? On aime les bédaines. Merci, Mireille. J'ai aimé le mot d'introduction. On aime les bébés. Hein? Quelle grâce d'avoir autant de nouvelles naissances à l'Église. Vraiment. Moi, je serais resté dans la louange. Il a fallu que j'aille pleurer en arrière pour me remettre un petit peu de mes émotions. Je l'ai transporté ce matin. Vraiment. J'ai une question pour vous, l'espoir. Quand la ville nous voit vivre, quand la ville te voit vivre, quand ta famille te voit vivre, tes collègues de travail, qu'est-ce qu'ils voient de Jésus? Qu'est-ce qu'ils voient de Jésus? Tes proches, tes collègues de travail, tes voisins, ton épouse, ton époux, tes enfants, les gens qu'on côtoie dans la ville, qu'est-ce qu'ils voient de Jésus? Ce matin, on va parler de la seule dette qui est légitime pour les chrétiens d'avoir. Et on va se poser la question, qu'est-ce que les gens autour de nous voient de Jésus? On poursuit notre série dans Romains. On arrive dans Romains 13. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'une adoration intelligente. Une adoration, un culte qu'on rend à Dieu qui est éclairé par un renouvellement de l'intelligence. On apprend à penser autrement. On apprend à ne pas être programmé par des valeurs qui sont loin de Dieu, mais au contraire, être près de Dieu. Puis on a dit, bien, l'atelier de formation, c'est l'Église. C'est dans nos relations dans l'Église qu'on apprend à grandir comme adorateur. Et on a dit que le test ultime de notre adoration, c'est quoi? C'est notre rapport avec nos ennemis. On a dit que nos amis, bien, nos ennemis, c'est les gens que tu n'as pas envie d'inviter à manger chez vous. C'est bon? On met ça assez large. Bien, ce matin, Paul, dans Romains 13, nous amène à réfléchir sur le rôle de l'Église dans la ville, la présence de l'Église dans la ville, dans la société, dans la culture. Et c'est pour ça que je pose la question. Quand la ville nous voit vivre, quand la ville te voit vivre, qu'est-ce qu'ils voient de Jésus? Et la bonne réponse, c'est certainement pas rien. On va écouter ensemble la lecture de la parole. Claude va nous lire Romains chapitre 13.
Bonjour. Alors, comme dit Yannick, la lecture de ce matin est tirée du livre aux Romains, de l'Épître aux Romains, chapitre 13, les versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen.
Merci, Claude. Ce matin, dans Romains 13, Paul place devant nous une question super importante pour l'Église. Quelle relation l'Église de Jésus-Christ est-elle appelée à avoir avec la cité des hommes? Voyez-vous, nous, on appartient au royaume de Dieu, mais on vit parmi les hommes. Quelle relation est-ce que l'Église est appelée à avoir avec la cité des hommes? Depuis que Jésus est venu, depuis qu'il a annoncé que le royaume de Dieu est parmi nous, hein, Jésus était là, faisait des miracles, parlait du Père, les gens venaient vers lui, il enseignait comme personne n'avait jamais enseigné. Il accueillait le pécheur, il accueillait celui qui était rejeté par les religieux. Et là, les gens posaient des questions et puis disaient, le royaume des cieux est déjà parmi vous. Parce qu'il incarnait parfaitement, lui le roi, le royaume des cieux. Et depuis ce temps-là, ceux qui croient en Jésus-Christ se joignent au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Mais on vit encore parmi les hommes, on vit encore parmi les gens. Alors, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Est-ce qu'on doit fuir la cité des hommes? Est-ce qu'on doit s'isoler et aller vivre dans des monastères? Est-ce qu'on doit chercher à la dominer? Hein? Il y a des mouvements chez les chrétiens qui disent que c'est les chrétiens qui devraient diriger tout. Est-ce qu'on est censé s'y fondre et devenir à peu près invisible? La réponse biblique est plus profonde que ça et Paul nous la donne ici dans ce chapitre. Le peuple de Dieu cherche le bien de la cité sans oublier qu'il appartient d'abord au royaume de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, alors que le peuple de l'Ancien Testament, le peuple juif, était en exil, dans Jérémie, Dieu va instruire son peuple. Il se posait la question, mais qu'est-ce qu'on fait? On est en exil, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans la terre promise, on a été déporté. C'est un jugement de Dieu sur eux, mais c'était une réalité, qu'est-ce qu'on doit faire? Un passage qu'on a déjà souvent cité ici, Jérémie 29, 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Bien, dans Romains 13, Paul applique cette logique-là à l'Église. Nous cherchons le bien de la cité en honorant les autorités, en aimant notre prochain, en marchant comme des enfants du jour dans un monde qui est encore dans la nuit. Parce que le soleil levant s'est levé dans notre cœur. L'étoile du matin a paru, on a cru en Jésus-Christ. Et alors même que la nuit est encore là, déjà nous marchons, nous vivons comme des gens de la lumière. Amen. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Voici comment je résume l'exposé biblique. Dieu forme un peuple dont l'amour rend visible son royaume et reflète Jésus-Christ au cœur même de la ville. Et il y a trois éléments que je veux souligner dans le passage de ce matin. Premièrement, nous sommes des citoyens du royaume dans la cité des hommes. Deuxièmement, nous sommes appelés à vivre un amour qui rend visible le royaume. Le royaume de Dieu devient visible par la présence de l'Église. Et troisièmement, nous devons nous réveiller parce que le jour approche. La semaine dernière, j'avais une question pour vous, c'était quoi? Est-ce que vous dormez au gaz? Est-ce que vous dormez au gaz? Mais Paul va poser littéralement cette question-là. Il va dire, c'est le temps enfin de vous réveiller en parlant à l'Église. Premièrement, des citoyens du royaume dans la cité des hommes. Dans la nuit, l'Église vit déjà comme marchant dans le jour. Parce qu'on porte en nous cette lumière-là de vérité. Dieu établit l'autorité pour préserver l'ordre. C'est une des questions que l'Église a dû se poser constamment. On se remet dans le contexte, on se remet à l'époque. Paul écrit la lettre aux Romains, on est dans l'Empire romain. On n'est pas dans une société jolie, démocratique, où chacun a voix au chapitre, puis on peut faire des appels, puis des recours. Il y a certains recours pour ceux qui sont citoyens, mais c'est limité. Et l'Empire romain n'était pas connu pour sa douceur, sa tendresse et sa compassion. Donc, on lit au verset 1 à 4 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Le rapport des chrétiens avec l'État, où quel qu'il soit, en est premièrement un où on reconnaît que Dieu établit des autorités. On croit dans un Dieu souverain, n'est-ce pas? On croit dans un Dieu qui fait autorité. Devenir chrétien, souvent, ça se résume pour plusieurs à ça. Accepter que je me place sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'aime pas ça. Naturellement, on n'aime pas ça, on est rebelle. Mais devenir chrétien demande déjà d'accepter qu'il y a un Dieu souverain, et ce Dieu-là établit des autorités. Et donc, l'Église, par nature, n'est pas en conflit avec l'autorité. Si tu es un révolutionnaire dans l'âme, Dieu va te donner l'Évangile pour produire cette révolution. Dieu va te donner un message d'amour et de grâce pour produire cette révolution. Nous ne sommes pas marxistes. On ne croit pas qu'il faut abattre toutes les chaînes d'autorité, renverser l'État, renverser... Non! Dieu nous a donné un message d'amour, un message de grâce. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités résiste à l'ordre que Dieu a établi. Dans les versets qui précèdent, Paul a pris le temps de dire « Surmonte le mal par le bien. Laisse à Dieu la vengeance. » Et maintenant, il dit « Dieu a donné l'épée au gouvernement pour exercer la justice. » Et Dieu merci, il y a une certaine justice. Autrement, ça serait le chaos total dans la société. Et les chrétiens comprennent ça. Paul va dire, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. » Dans la nuit, l'Église vit déjà comme au grand jour, premièrement, dans sa manière d'honorer les autorités. Et ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, ce n'est pas nécessairement naturel. Paul explique comment l'Église est en relation avec l'État depuis toujours. On est conscient que le gouvernement n'est pas parfait, mais on est convaincu que Dieu établit des autorités. John Stott a dit ceci, « L'État est une institution divine établie d'une autorité, investie d'une autorité divine. » Donc, si dans ton idéal, si tout allait bien, si l'amour était parfait, il n'y aurait aucune autorité, ce n'est pas une pensée biblique. Il y aura toujours une autorité. Dieu, déjà. On a un roi qui est seigneur des seigneurs. L'État est une institution divine, investie d'une autorité divine, puisqu'il a été établi par Dieu. Mais en même temps, les gouvernements humains ne sont pas divins. Comme le prétendaient les anciens empereurs. C'était ça dans l'Empire romain, hein? Il y a même certains gouvernements, il y a certains dictateurs actuellement qui se présentent comme des petits dieux. Il y a des missionnaires qui vont dans des champs missionnaires semblables. Et ils ne doivent pas recevoir un contrôle totalitaire sur la vie humaine. Leur autorité demeure limitée par l'autorité de Dieu. Donc, pour les chrétiens, il y a quelqu'un au-dessus du gouvernement. C'est Dieu. Et tout gouvernement qui me dit « Non, tu ne dois pas reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de moi » appelle déjà le chrétien à ne pas se laisser endoctriner par ça, par cette pensée-là. C'est le deuxième élément que je veux souligner ici. Le chrétien honore l'autorité sans idolâtrer l'État. C'est tentant pour nous, dans un pays aussi confortable où vivre, de penser que toutes les solutions reposent entre les mains de l'État. Puis là, je suis chrétien, je veux honorer les autorités. Mais l'État n'est pas la solution à tous les maux. Loin de là. Et donc, on n'est pas appelé à avoir une espèce de vision totalitaire ou une espèce d'idéal socialiste où tout va reposer entre les mains de l'État. Non, j'ai la responsabilité, moi, de faire le bien. On va parler de la seule dette que tu as encore à ce jour si tu es chrétien. J'y viens dans un instant. Paul n'est pas en train de dire que l'État est Dieu. Il dit que l'État est serviteur de Dieu. Et c'est très différent. L'État a une vraie autorité, mais a une autorité limitée. Par exemple, les apôtres à qui on avait commandé de ne plus annoncer Jésus-Christ répondent quoi? Songez-y, vaut-il mieux obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Et donc, depuis toujours, les chrétiens vivent dans cette tension où si mon gouvernement me demandait d'haïr une population, si mon gouvernement me demandait de discriminer, si mon gouvernement m'interdisait d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, la réflexion n'est pas très complexe. Là où ça se complexifie, c'est comment je fais pour continuer à les honorer en honorant premièrement Dieu. Et donc, ce n'est pas qu'on voit dans l'État Dieu qui sait tout et qui dit tout et qui gouverne tout et qui est appelé à nous sauver. Et si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez très bien voir que l'Église est très investie dans toutes les sociétés où elle habite. Beaucoup d'efforts pour aider, pour faire du bien à la ville, pour faire du bien aux citoyens, vient des chrétiens. Constamment, à travers toutes les sociétés où l'Église apparaît, l'Église s'investit, elle ne laisse pas tout ça à l'État. Non, les chrétiens voient du bien à faire et cherchent à faire le bien là où ils peuvent le faire. La semaine dernière, j'ai dit pourquoi un chrétien travaille. Un chrétien travaille pour pourvoir aux besoins de sa famille. Un chrétien travaille pour pouvoir prendre soin de l'Église, donner à l'Église, mais prendre soin des pauvres. Je désire prospérer, pas pour mon bien, pour pourvoir aux besoins des miens, mais pour pouvoir aider à ceux qui sont dans le besoin. Et les chrétiens, l'Église fait ça depuis son origine. Toutes les sociétés qui ont été habitées par l'Église ont été, à différentes échelles, transformées par la présence de l'Église. Donc, en règle générale, le chrétien cherche à être un citoyen paisible, fiable, honnête, respectueux. Mais si l'État lui demande de renier Christ, de cacher l'Évangile, de faire le mal, de participer à l'injustice, de mépriser une personne qui a été créée à l'image de Dieu, alors le chrétien ne devient pas violent, mais il devient fidèle, même si cette fidélité lui coûte quelque chose. C'est la posture que les chrétiens adoptent depuis toujours. Exemple, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le chrétien paie ses impôts honnêtement, Paul le dit explicitement, même quand il trouve que l'État ne gère pas bien. Le chrétien cherche à honorer. Je m'en allais en voiture avec mon épouse hier, puis là j'ai dit, j'ai un problème. Là, je vous fais une confession. J'ai un problème, j'ai de la difficulté à honorer les autorités quand je vois la condition de nos routes. Puis je ne riais pas du tout. Parce que mon cœur, quand je roule, a tellement honte de nos routes que j'ai tendance à mépriser ceux qui nous gouvernent. Puis là, j'ai dit à Esther, je ne sais pas c'est quoi la solution, je suis prêt avec ce péché-là, j'ai du mépris dans mon cœur. Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai honte des routes. Hey, je suis concret, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Esther m'a dit, c'est bon, tu vas trouver. Il y a d'autres moments où tu étais tenté de mépriser des gens. Dieu va te montrer. Mais voyez-vous, c'est aussi bête et aussi simple que ça. Mais c'est réel. C'est réel. Je sens le mépris dans mon cœur. Je m'entends parler avec mépris. Et je ne glorifie pas Dieu en faisant ça. Et là, je cherche la face de Dieu puis je dis, Seigneur, instruis-moi. Ça veut dire, par exemple, de respecter les policiers, les juges, les fonctionnaires, les élus, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec toutes leurs décisions. Ça veut dire que le chrétien ne nourrit pas une culture de mépris, comme je viens de le dire, de sarcasme, de colère permanente envers les autorités. Ça veut dire qu'au travail, le chrétien honore son employeur, même quand il voit les limites de son employeur. Tant qu'on ne lui demande pas de péché, il va honorer son employeur. Ça veut dire que sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, nous ne parlons pas des autorités comme si Jésus n'était pas Seigneur, comme si Jésus n'évaluait pas nos propos sur les médias sociaux. Et Paul ne s'arrête pas à notre rapport comme Église avec les autorités, avec la ville. Il va beaucoup plus loin que ça ce matin. Vous allez voir, ça devient beaucoup plus concret et personnel. La vie du royaume ne se voit pas seulement dans mon rapport avec les autorités, elle se voit aussi dans mon rapport avec mon prochain. Dans Romains 12, Paul a dit qu'on devait avoir une affection ardente pour les frères et sœurs. Et là, Paul est en train de sortir du cadre de l'Église, il parle du rapport avec les autorités, et maintenant il va parler de notre rapport avec notre prochain. Si vous êtes familier avec les enseignements de Jésus, ton prochain, c'est large en titi. Il y a beaucoup de monde dans ton prochain. Beaucoup. L'amour qui rend visible le royaume. L'amour qui rend visible le royaume. Dans la nuit, l'Église vit déjà comme au grand jour lorsqu'elle aime son prochain, comme une dette qu'elle n'a jamais fini de payer. Pour le chrétien, l'amour est une dette qui ne se termine jamais. Il y en a qui haïssent les dettes, hein? Vous faites vraiment bien. Vous faites vraiment bien d'haïr les dettes. Je veux juste vous dire, vous êtes endettés jusque-là. De l'amour que vous devez aux gens qui sont autour de vous. Romains 13, 8, ne devez rien à personne. Il vient de parler des impôts, il vient de parler de notre rapport avec les autorités. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Paul vient juste de dire de rendre à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et ensuite, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, parce que toute la loi est accomplie ici. Toute la loi est accomplie lorsque j'aime mon prochain, lorsque je ne néglige pas d'aimer mon prochain. Autrement dit, il y a des dettes qu'on peut payer et terminer comme chrétien. Et souvent, lorsque tu entres dans la vie chrétienne, les premières années de ta vie chrétienne, tu vas mettre de l'ordre dans ta vie, tu vas mettre de l'ordre dans tes finances, tu vas quitter des dépendances, des addictions, tu vas mettre de l'ordre. Littéralement, les gens vont quitter l'endettement. Et pourtant, Paul te dit que tu es endetté jusque-là en termes d'amour. Jusque-là. Donc, je suis en dette envers toi, 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 je suis en dette envers toi parce que je suis chrétien. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les gens dans votre maison? Si tu es chrétien comme moi, est-ce que c'est comme ça que tu vois ton conjoint ou ta conjointe? Je suis en dette envers toi. Tes enfants, les voisins qui tombent ses nerfs. Est-ce que tu les vois comme ça? Je suis en dette envers toi. La personne qui est dans le besoin et qui est incommodante parce qu'elle est en train de te quémander de l'argent ou vient te déranger au travail dans tes projets. Est-ce que tu la vois comme ça? Je suis en dette envers toi. Parce que moi, je suis en dette envers chacun d'entre vous. À cause de Christ qui habite en moi. L'espoir, quand l'Église, quand la ville nous voit vivre, quand les gens autour de toi te voient vivre, qu'est-ce qu'ils voient de Jésus? Christ a pris ta dette et la mienne à la croix. Qu'est-ce qu'il voit de Jésus? Romains 13, 9 et 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Douglas Moo écrit, « L'amour ne fait aucun mal au prochain parce qu'il cherche le véritable bien de l'autre personne. Ainsi, l'amour accomplit la loi, non pas en remplaçant les normes morales, mais en réalisant leur intention profonde. Quand Dieu a donné des lois au peuple d'Israël et tous les impératifs que tu trouves dans le Nouveau Testament, tu peux tous les relire en te demandant « En quoi Dieu voulait-il que je l'aime et que j'aime mon prochain? » Parce que toutes ces prescriptions-là, toutes ces lois-là, ne répondent qu'à ces deux questions. En quoi est-ce que Dieu voulait que je l'aime et que j'aime mon prochain? Et le défi, c'est qu'on définit nous-mêmes qui est notre prochain. On a des cases, on a des boîtes, on se protège. Je ne veux pas être en dette envers tout le monde. Après tout, quand j'ai fini ma journée de travail, est-ce que je peux ne pas être en dette envers ma famille, rentrer chez moi, puis enfin être accueilli comme le prince que je suis, qui a servi toute la journée sa maison? Non, je suis encore en dette. Et là, on a des cas, c'est qui mon prochain? Puis Jésus vient, raconte le récit du bon Samaritain. L'ethnicité la plus haïe des Juifs à l'époque, pratiquement. Puis il dit, un bon Samaritain vint aider un Juif alors que les meilleurs des Juifs ne l'avaient pas aidé. Qui a été le prochain de cet homme? C'est le bon Samaritain. Parce qu'il se sentait en dette d'aider, en dette d'amour, littéralement. Paul veut voir l'Église se transformer, grandir en maturité, devenir une Église paisible, honorable, crédible, lumineuse dans l'Empire romain. La vision de cette Église, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Ça commence par ma maison, ça se poursuit avec l'Église, mais ensuite avec tous ceux que Dieu place sur mon chemin. Et c'est pour ça qu'on a pris le terme « communauté ». On s'est dit « ouais, mais les gens vont penser que c'est l'Église, c'est la ville ». C'est tous ceux que Dieu place sur ton chemin. Très concrètement, à quoi ça ressemble une dette d'amour? Pour quelqu'un qui a peu de moyens, aimer son prochain ne commence pas nécessairement par de grandes ressources. Ça peut être simplement une présence fidèle, une prière, un coup de téléphone, une parole d'encouragement. Pour quelqu'un qui vit avec des limitations physiques, l'amour n'est pas annulé par la faiblesse. Dans le royaume de Dieu, même une personne qui se sent diminuée peut devenir une lumière par sa prévenance, sa persévérance, son intercession, sa douceur, sa gentillesse pour accueillir les autres. Pour un père, pour une mère, déborder, aimer son prochain commence souvent dans la maison, en parlant avec patience, en demandant pardon rapidement, en servant toujours sans être vu. Sans donner la phrase « oui, mais j'en fais pas assez ». Refuser que la fatigue devienne une excuse pour blesser. Pour un travailleur sous pression, aimer son prochain peut vouloir dire refuser la dureté, l'amertume, les raccourcis malhonnêtes et chercher le bien de ses collègues, même quand l'ambiance est lourde. Pour un enseignant, un éducateur, un responsable, aimer son prochain peut vouloir dire chaque personne, voir chaque personne, non comme un dossier, mais comme une personne à accueillir. C'est ça qui était frappant avec Jésus. C'est que toute personne qui pouvait se rendre jusqu'à lui était une personne à ses yeux. C'est saisissant. Le royaume de Dieu était parmi les hommes parce que si tu arrivais à t'approcher de Jésus, à ses yeux, tu n'étais pas la 47e personne qu'il guérissait miraculeusement dans la dernière heure. Tu étais une personne. Et c'est ça que tu sentais. Si toute la société refusait de reconnaître ta dignité propre comme être humain, Jésus te la redonnait. Et lorsque je réalise que je suis en dette envers tous les hommes autour de moi, c'est ça que je fais. Parce que mon attitude envers toi, lorsque tu viens vers moi, je me sens en dette. Qu'est-ce que je vais te donner? Je vais t'accueillir comme Jésus. Espoir. Quand les gens autour de toi te voient vivre, qu'est-ce qu'ils voient de Jésus? Qu'est-ce qu'il voit de Jésus? Et pourquoi vivre ainsi? Pour honorer? Pour aimer? Pourquoi refuser de se fondre dans l'esprit du siècle? Paul nous donne la raison. Nous savons dans quel temps nous sommes. Si tu as reçu l'Évangile, ton cœur, ton intelligence a été éclairée par l'Évangile. Et tu lis tout à travers cette réalité-là. Tu es citoyen de la terre, mais déjà tu es citoyen des cieux. Tu sais que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et donc, alors même qu'on est dans la nuit, on voit déjà le soleil poindre. Déjà, j'entends les oiseaux chanter. Déjà, le soleil est en train de se lever. Et moi, je vis déjà comme étant du jour. Dans la nuit, l'Église vit déjà comme au grand jour parce qu'elle sait que le jour approche. Le chrétien ne peut pas dormir spirituellement parce que l'étoile du matin s'est levée dans mon cœur. L'Esprit de Christ m'habite. Romains 13, 11 et 12. Cela importe d'autant plus Paul, il dit, voici la raison pour laquelle tu ne veux pas dormir au gaz. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Paul vient juste de parler de notre rapport aux autorités, de notre amour pour le prochain, et il dit « ça compte d'autant plus qu'on sait lire le temps ». Et on sait que Jésus revient bientôt. Je sais que les gens autour de moi dorment parce qu'ils n'ont pas connu Christ encore. Mais moi, je ne dors plus. J'ai été éveillé par Christ. Et là, Paul s'adresse à l'Église. Il dit, « Église de Rome, réveillez-vous enfin! Ne vous conformez pas au siècle présent. La ville, les gens autour de vous sont appelés à voir en vous Jésus-Christ. Si tu saisis l'espoir que tu es en dette envers tous ceux qui t'entourent. Le chrétien ne regarde pas seulement le monde avec les nouvelles du petit matin. » Non, il est conscient que le jour est là. Christ revient bientôt. Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller. Le danger, ce n'est pas simplement de voir le mal ou de faire le mal ouvertement. Le danger, c'est de s'endormir spirituellement. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Moi, j'ouvre les stores. Je vois la lumière. Puis, si jamais je me suis endormi en partie dans mes vêtements de la veille, j'envoie ça au lavage, je me change. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Revêtez Christ. Est-ce que tu dors l'espoir? Est-ce que tu t'es endormi? Le cadran a sonné, mais toi, tu es sur le snooze. On passe tout droit ce matin. On reste couché. Non, le jour est là, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le message de l'Évangile t'a été donné. T'as la vérité. Il dit, dépouillez-vous des œuvres de la chair. Dépouillez-vous de toute débauche, de toute luxure, et revêtez Christ. Jésus vivait sur la terre comme quelqu'un qui avait une dette d'amour envers les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus s'est incarné, son rapport avec les êtres humains, c'est comme s'il y avait une dette envers tout le monde. Et pourtant, c'est Dieu. C'est Dieu le Fils, c'est Dieu incarné. Mais il vivait comme s'il y avait une dette envers tout le monde. C'est incroyable. Et les gens le côtoyaient puis ils disaient, mais j'ai jamais entendu parler de Dieu comme j'entends parler de Dieu. J'ai jamais côtoyé quelqu'un qui reflétait la personne de Dieu comme tu le fais. J'ai jamais vu ça. Christ lisait le temps. Il savait qu'il allait bientôt à la croix. Il savait qu'il allait mourir sur la croix pour tes péchés, pour les miens. Il savait que la dette que j'ai envers Dieu serait entièrement payée par lui complètement. Il savait qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Il savait qu'il nous enverrait l'Esprit Saint avant même sa mort. Il annonce aux disciples, « Je vais vous donner mon esprit maintenant. Et les œuvres que moi j'ai faites, vous allez en faire de plus grandes encore. » Espoir, est-ce que tu dors? Est-ce que tu snoozes ton cadran spirituel? Les gens qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient de Jésus? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Pendant que j'étais en train de louer tout à l'heure, le Seigneur me montrait des situations très concrètes où dernièrement, je ne me suis pas comporté comme quelqu'un qui a une dette d'amour. Il m'a convaincu, l'Esprit Saint m'a convaincu de péché. J'ai vu une personne en particulier où je ne me comporte pas comme quelqu'un qui a une dette d'amour envers cette personne-là. Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle ce matin? Est-ce que tu es en train de snoozer ton cadran tous les matins, puis tu restes couché, tu ne te lèves pas, et tu ne laisses pas l'Esprit venir remplir ton cœur, ton âme? C'est quoi ton rapport avec les autorités dans ta vie? Est-ce que ces gens-là peuvent voir que tu es différent de plein de manières, parce que tu respectes l'autorité, mais en même temps, tu n'es pas aveugle sur ce qui se fait, qui n'est pas bien au bureau? Et tu es là pour aider ceux qui sont méprisés, qui sont rejetés. Tu ne parles pas comme les autres collègues de travail. Tu as un discours qui est différent. Ton style de vie est différent. Est-ce que les gens qui habitent dans la même maison que toi voient Jésus dans ta vie? Est-ce que te côtoyer, c'est côtoyer quelqu'un qui a une dette d'amour envers moi? Ou est-ce que te côtoyer, c'est côtoyer quelqu'un qui a de l'ambition, qui a une vie ordonnée, hein, qui a rencontré Dieu, donc il sait où il s'en va, il fait ses choses, sans réaliser que rencontrer Dieu fondamentalement, c'est devenir perpétuellement endetté d'amour envers les gens autour de nous. Si Dieu te parle ce matin, pèse pas sur snooze, s'il te plaît. Pèse pas sur snooze. Confesse ton péché à Dieu. Passe à l'action. Va réparer cette semaine. Va vers cette personne, va vers ces gens. Change ta posture, change ton attitude. Si tu es pris comme moi à conduire puis avoir envie de mépriser, lutte dans la prière, c'est un combat. Paul nous dit de revêtir les armes de la lumière. Je suis là dans ce combat-là, je vous le dis, je suis franc avec vous. Vous allez dire, non mais c'est bête, c'est banal. Non, c'est pas bête, je pêche. Je combats. Je veux revêtir les armes de la lumière. Parce que je veux pas peser sur snooze. Je sais que le temps approche où Christ revient bientôt. Et alors même que les gens autour de moi dorment au gaz parce qu'ils n'ont pas reçu Christ encore, moi, je veux vivre comme quelqu'un qui a connu la lumière, comme un habitant de la lumière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es tout simplement magnifique. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. Ta parole est puissante pour nous transformer. Et Seigneur, ton esprit vient et accompagne ta parole. Ton esprit vient et parle à nos cœurs, Seigneur. Et chacun sait ce que tu fais bouger dans son cœur ce matin. C'est entre chacun d'entre nous et toi. Seigneur, viens nous visiter. Si cette église, si l'espoir dort, réveille-nous enfin de ce sommeil, Seigneur. Oh mon Dieu, que l'espoir brille dans la ville, que le parfum du royaume de Dieu soit manifeste, qu'on puisse le sentir en nous côtoyant, Seigneur. Que les gens ne ressentent pas de l'indifférence lorsqu'ils nous côtoient, mais que nous avons une dette d'amour envers eux. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de leur dire quel est le secret de cette dette-là. Jésus-Christ.